18h01 minute sur Radio Campus Paris. Nous sommes le lundi 8 novembre. Vous écoutez donc Radio Campus et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, bienvenue à La Relève pour cette nouvelle émission. On reçoit un journaliste et essayiste. On va parler de la profession des parents et des rêves des enfants. On va parler tout simplement des transfuges de, classe. Bonjour Adrien Nazelli, j'avais pas remarqué que c'était aussi difficile à dire transfuge de classe, j'aurais dû m'entraîner.
C'est très compliqué.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de « Et tes parents, ils font quoi ?» chez Jean-Claude Lattès. On est en novembre, c'est presque la rentrée, en tout cas pour certains. Je vous propose de revenir en arrière, on est au collège. On vous demande de remplir une petite fiche que vous auriez préalablement découpée en prenant une feuille en deux. Et on vous demande d'indiquer la profession des parents. À l'époque, vous ressentez quoi ?
Moi, je demandais à mon père ce que je devais écrire. Je ne comprenais pas vraiment la nomenclature du métier. À l'époque, je pense pas grand-chose. Enfin, je n'avais pas du tout réfléchi à ces questions, évidemment, parce que la plupart de mes camarades avaient des parents qui faisaient des métiers comme les miens, c'est-à-dire des métiers assez peu diplômés. Et je me souviens que je ne comprenais pas le métier de mon père parce qu'il bossait dans les transports en commun de l'agglomération grenobloise, l'équivalent de la RATP ici. Et voilà, il y avait des nomenclatures un peu compliquées. Ma mère, est-ce qu'elle était secrétaire administrative, enfin bon, voilà. Je réfléchissais.
Non, mais parce qu'en lisant votre livre, je me suis posé la question, mais pourquoi on nous demande ça quand on va à l'école ?
Mais moi, ça me semble vraiment essentiel. Pour le coup, je milite beaucoup pour que cette question soit maintenue jusqu'à...
À vous, c'est le contraire. Vous trouvez ça normal ?
Ouais, moi, vraiment, cette question, c'est vrai qu'il y a deux lectures. Quand on voit le titre, on peut se dire « Et tes parents, ils font quoi ?» Mince, ça va gêner les gens qui viennent d'un milieu populaire. Alors qu'en réalité, c'est essentiel pour justement lutter contre la reproduction sociale, que le corps enseignant, mais aussi que les futurs recruteurs soient au courant d'où viennent les gens pour justement favoriser les gens qui viennent de milieux où ils n'ont pas été particulièrement aidés par des réseaux, des informations qu'ils auraient déjà depuis de longue date, de parents qui auraient fait des études, etc. Donc moi, je pense que cette fiche qu'on fait au collège, encore un peu au lycée, on devrait la poursuivre dans les études supérieures, donc à la fac, dans les grandes écoles, on devrait demander aux gens systématiquement quelle est la CSP de leurs parents, ce qu'ils font, et que le corps enseignant prenne mieux en charge ces questions plutôt que de créer un énorme tabou et de ne jamais en parler.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail qui a dû vous prendre un peu de temps, puisqu'il y a 15 interviews de couples en général enfant-parent, un enfant, un parent, voire les deux parents.
C'est cette idée que on met beaucoup en avant les gens qui ont réussi à faire des études là où leurs parents n'avaient pas pu en faire, donc ces fameux transfuges de classe.
Ça, c'est votre définition du transfuge de classe.
Moi, j'ai fait cette définition-là parce qu'il fallait que j'écrème un petit peu le nombre de témoignages possibles, parce que c'est vrai que tout le monde ressent un décalage par rapport à sa famille et tous les décalages méritent d'être racontés. Hein. Je ne voudrais surtout pas censurer ou exclure des gens. Mais de fait, pour ce travail, j'ai dû faire un critère un peu précis. Parce que quand j'entendais des enfants de profs me dire qu'eux, ils étaient dans un décalage total avec leur famille, au début, je les écoutais. Puis après, je me disais, mais attends, c'est pas exactement le même que quand tu as un enfant d'ouvrier qui se retrouve dans le même boulot. Non, désolé, c'est pas le même décalage, quoi. Et donc, j'ai dû enlever les gens dont les parents avaient eu des diplômes. Ouais. Donc j'ai pris que des parents...
Des diplômes du supérieur.
Ouais,
ils peuvent avoir le bac.
Le maximum, c'est le bac.
Ouais.
Et voilà, des gens dont les enfants, par contre, ont pu faire des études.
Vous le dites, et d'ailleurs Annie Ernaux, ça c'est très chic, elle vous le dit à la fin, que ce qui est intéressant, enfin, notamment ce qui est intéressant dans votre livre, c'est qu'on entend la voix des parents. On a beaucoup entendu les enfants. Vous, quand vous êtes allé voir les parents, qu'est-ce que vous aviez envie qu'ils vous racontent ? De quoi voulez-vous qu'ils vous parlent ? De comment ils avaient vécu l'ascension sociale de leurs enfants ?
Oui. J'avais envie de vérifier un pressentiment que j'avais, moi, dans ma propre vie, qui était qu'ils étaient fiers de moi, parce qu'ils me le disaient, mais qu'en même temps, il y avait quelque chose qui les interrogeait sur cette ascension sociale. Contrairement à mes camarades issus de milieux assez favorisés, là où les parents ne questionnaient absolument pas le parcours, c'est-à-dire que c'était évident que leurs enfants allaient faire des masters, éventuellement ensuite des thèses, c'était évident que leurs enfants allaient viser les formations les plus prestigieuses, qu'ils allaient peut-être finir au Parlement européen, enfin disons qu'il y avait tout un plan de carrière qui était fait, alors que moi, le plan de carrière, c'était juste avoir un métier stable, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que son enfant, quand on vient d'un milieu plutôt modeste, bah voilà, ait une sécurité de l'emploi. Donc ça veut dire quoi ? Un CDI. Et que ce soit prestigieux ou pas, finalement, on s'en fiche. On veut que son enfant ait un cadre stable et qu'il soit heureux. C'est tout ce qu'on veut. Et je me disais, bah, j'avais aussi envie de lutter contre ce tic que j'ai repéré un peu dans la bourgeoisie un peu intellectuelle, qui est de me dire souvent, tes parents doivent être fiers. Quand je leur racontais un peu mon parcours, je disais que j'étais arrivé à l'école normale par un parcours parallèle au concours général. Ils me disaient, oh là là, qu'est-ce qu'ils doivent être fiers? Je leur disais, bah, pas que. Et du coup, en allant voir les parents, ça me permettait de vérifier mon propre ressenti avec d'autres parents, d'autres transfuges de classe, et leur demander ce qu'ils pensaient. Et en l'occurrence, je dirais qu'une bonne moitié des parents que j'ai rencontrés ont fait état de ces crispations, de ces incompréhensions qui arrivent au moment des études.
Mais ils sont quand même fiers.
Oui, oui, vraiment.
Il n'y en a pas de souvenir. Il y a peut-être le père de Michel Guy qui est un peu moins, qui est, en tout cas, a l'air un peu plus bourru, mais peut-être parce qu'il est un peu plus âgé sur
Il y a, un garçon qui s'appelle alors Michel Rose.
Ah oui,
mais,
pardon.
Michel Guy, c'est un qui est journaliste. Et en effet, son père, je pense maintenant il est fier, mais disons que son fils a fait Sciences Po. Lui, il est agriculteur.
Ouais.
Et il me dit il m'explique que, en fait, pour lui, ça aurait été mieux, ça aurait été préférable que son fils reprenne l'exploitation. Plutôt qu'il veuille aller faire quoi, il lui dit président de la République, et dans sa bouche, c'est pas valorisant. Donc voilà, j'ai voulu un peu réinterroger ce que ça veut dire pour des gens qui sont par ailleurs très différents, hein, qui exercent des métiers, qui vont du métier manuel au métier d'employé. Qu'est-ce que c'était la réussite pour eux ? Et c'est pas la même chose que la réussite pour les parents de mes nouveaux camarades dans la vie.
Ce qu'on retrouve dans tous ces récits, c'est ce que vous appelez le petit storytelling qu'on se fait chacun et souvent, c'est l'histoire d'un enfant qui travaillait bien à l'école, qui a réussi. Pourquoi elle ne vous satisfait pas, cette explication ? Parce que justement, je recite Annie Arnault, qu'on a beaucoup cité cette année à ce micro, là depuis septembre, parce que finalement, le social l'emporte toujours, comme elle le dit, comme elle l'écrit, je crois.
Oui, ça suffit.
Chute de mémoire.
Hein, ouais, c'est ça, ça ne suffit pas, parce que, en fait, je voulais justement montrer que les parents avaient un rôle dans ça et lutter contre le mythe du transfuge de classe qui s'est fait tout seul ou qui a fui son milieu, qui s'est extrait de sa condition à la force des poignets. En fait, j'avais envie de montrer que finalement, en germe, dans l'éducation que ses parents ont donnée à ces futurs transfuges de classe, il y avait tous les ingrédients pour qu'ils finissent par faire des études. Donc ça peut être s'occuper de son nouveau-né en l'éveillant à des lectures, ça peut être faire attention à l'école, enfin accorder une grande importance à l'école, quand bien même on n'a pas tous les codes pour savoir ce que c'est. Par exemple, ça m'amuse, mais chez beaucoup des parents que j'ai rencontrés, ils ont une notion assez floue des notes. Donc par exemple, un 20 sur 20, ça va pas non plus être... ça va être bien, super. Mmh. Mais par contre, ça va pas être applaudi comme dans les milieux très renseignés sur l'école et les parcours. Parce que, alors là, ce serait la fête. Alors que je suis dans les classes plutôt populaires, un 20 sur 20, bah, c'est un peu la moindre des choses. On t'envoie à l'école, on te donne tout ce qu'il faut pour bien travailler. Tu ramènes une bonne note. Et après, on retrouve ce décalage plus tard. Si les enfants vont par exemple en classe prépa, quand ils se retrouvent avec des 8 ou 9 sur 20, ce qui n'est pas une note si terrible en classe prépa.
Ouais, y en a un
qui pour les parents ça, ouais. Des milieux populaires, c'est une catastrophe parce qu'ils se disent « Mais comment ça se fait que ma fille, maintenant, elle a 9 sur 20 alors que c'était la meilleure de la classe ?» Parce qu'ils ne savent pas. Alors que, bon, évidemment, les gens qui sont passés par là savent qu'en prépa, on a 9.
On va écouter Dara qui témoigne.
Pour briser la glace, Antoine me pose la question suivante. Mais au fond, on lit Madame Bovary aujourd'hui uniquement pour les descriptions, non ? Et là, je suis hyper dans la merde parce que, honte suprême, à l'époque, j'ai pas lu Madame Bovary. Je suis en hypocagne au lycée Louis-le-Grand et j'ai pas lu un classique de la littérature française comme Madame Bovary. Donc bref, je baragouine un truc, je me débrouille pour partir aller boire un verre, je suis pas bien et ça fait partie de ces petites anecdotes, ces petits moments de stress que je vivais quand même quasiment quotidiennement à Louis-le-Grand. Alors, à l'époque, qu'est-ce que je me fais comme réflexion après un tel événement ? Je me dis qu'en gros, je manque de curiosité intellectuelle de manière criante, que j'ose ne pas avoir lu les classiques de base alors que je suis en prépa littéraire et que ça craint et je l'impute à ma seule responsabilité. Et puis par ailleurs, je me sens conne, je me sens moins intelligente qu'un mec comme Antoine qui a une capacité à avoir des opinions sur ces classiques et à lire d'une manière de manière éclairée en fait. Et moi j'ai l'impression de lire de manière débile quoi. Et donc, bref, je me sens assez nulle, hein, pour le dire très, de manière assez brève. Avec le recul et à la lumière du concept de violence symbolique, et c'est pas le seul facteur qui peut expliquer cette situation, bien sûr, hein, mais ça fait lumière quand même sur la situation, je me rends compte que, bah oui, Antoine, il avait grandi dans un milieu culturellement favorisé, et donc ça pouvait jouer à 18 ans sur son bagage culturel. Et puis par ailleurs, ça pouvait aussi jouer sur son aisance à jouer avec cette culture, à avoir des opinions, à pouvoir discourir sur les classiques et ce genre de choses.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Adrien Nazelli, auteur de Et tes parents, ils font quoi ? Je ne sais pas ce que je voulais faire.
Et ils font quoi, tes parents ? Ça pourrait être dans l'autre sens, ouais, j'ai hésité.
J'ai mélangé. On vient écouter un extrait d'une youtubeuse qui s'appelle Dara. Elle se présente comme transfuge de classe. Je n'ai pas pu savoir plus parce que je n'ai pas trouvé plus d'informations. On va la croire.
On la croit par principe. Allez, moi j'aime bien cette youtubeuse.
Et puis son anecdote est assez cohérente avec ce que vous racontez. Ce qui est intéressant, qui évoque d'ailleurs une des personnes que vous avez interviewées qui s'appelle Pascaline, qui était en fac de cinéma et qui raconte tout son trouble quand elle voit des élèves qui osent se permettre de critiquer le prof, alors qu'elle a encore un rapport assez sacré au savoir. Là, on a tout, quoi. On a la différence culturelle, la différence de milieu. Qu'est-ce qui vous inspire cet extrait ?
Moi, déjà, ce qui m'amuse chez cette youtubeuse que je regarde, j'aime bien ses analyses, c'est qu'elle le dit elle-même, mais je crois qu'elle a pris voilà, toute la manière de parler un peu impressionnante de cette élite intellectuelle. Elle parle comme ça, elle dit même Louis le Grand, qui est la distinction ultime, c'est-à-dire de bien prononcer les noms d'établissements sélectifs et de ne pas dire Louis le Grand, parce que là, c'est pour les ploucs. Bref, du coup, ça, j'aime beaucoup cette manière qu'elle a à la fois
d'être... Mais on dit H4, non, on ne dit pas Henri IV quand on est...
Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a plein de choses à savoir.
Il y a plein de codes à savoir.
Qui sont au début assez déroutants. Comme elle, moi, je débarque à l'ENS. Et encore une fois, je n'y serais jamais allé si mes profs de l'université de Grenoble ne m'en avaient pas parlé, parce que je n'aurais eu aucun moyen de savoir que cette école recrutait des gens de la fac. Enfin, depuis quelque temps, ils avaient ouvert le recrutement. Et bah, oui, c'est ça à quoi j'ai été confronté. Alors moi, j'ai eu une stratégie différente de la sienne. Au lieu d'être intimidé, enfin, je ne dis pas que je ne l'ai jamais été, évidemment, le nombre de classiques que je n'avais pas lus était considérable. Mais du coup, pour m'en sortir, j'ai toujours choisi l'originalité en me disant, bon, si tu assumes que tu ne sais pas, ce sera toujours mieux que d'être pris sur le fait.
Oui.
Donc, j'ai toujours pris ce parti-là, sauf, parce que je fais le malin, mais il y a des moments où ce n'est pas possible, parce qu'il y a des choses qui sont tellement considérées comme de la culture générale et une sorte de minimum requis pour faire partie de ce milieu, que si on ne l'a pas, tout à coup, ça devient suspect, gênant. Et donc, il y a des moments où, sans doute, j'ai dû mentir en disant que j'avais regardé des films de la Nouvelle Vague, ce qui était complètement faux. Je trouve ça d'un ennui mortel, toujours. Mmh. Et à l'époque, non, je ne les avais pas vus. Parce que, évidemment, dans ma famille, il n'y avait pas de gens qui avaient travaillé avec Jean-Luc Godard, comme c'était le cas de certaines personnes qui sont à l'ENS.
Et c'est vrai, il y a ce décalage à gérer en permanence. Il y a un exemple qui est très cruel dans ce que vous racontez. On pourrait raconter parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes et c'est aussi 15 histoires de vie. Votre livre, c'est à la fois une analyse mais aussi 15 récits de vie. Il y a l'histoire d'Aurélie Filippetti alors c'est Louis le Grand, que je dise bien.
Attention. Elle, c'était Henri IV.
Elle, c'est Henri IV. Ouais. Elle n'y va pas parce que ses parents, c'est trop compliqué pour elle. Mais il y a surtout l'histoire de. Je crois que c'est toujours ce journaliste qui passe le concours de Sciences Po. Paris à l'école de journalisme, mais qui est recalé parce qu'on lui demande combien gagne un journaliste. Oui. Et lui, ici, il donne un salaire qui lui paraît énorme, 1 500 €, et en gros, il ne connaît pas le métier, donc il ne peut pas le faire.
J'aime beaucoup cette histoire. Oui.
C'est incroyable.
En fait, Michel, voilà, qui réussit le concours de Sciences Po à Aix, et ensuite Paris, donc il est tout excité. Je pense qu'il avait vraiment le niveau, c'était une sorte de bourreau de travail. Et effectivement, il est recalé, selon lui, sur des critères de classe.
Ouais, sur une question sur le salaire qu'il a.
On
même
lui
pas.
Dit combien touche un journaliste, il dit 1 500 € en réfléchissant longuement parce qu'il est tout à coup complètement démuni alors qu'il connaît tout de la géopolitique, il connaît tout, mais là tout à coup, savoir quelque chose du monde réel, de ce que c'est qu'un salaire, et en fait il dit que les gens du jury ont ricané.
Et il y a toutes ces petites choses, il y a toutes ces... Alors, sur l'apprentissage de l'anglais, d'avoir voyagé, de pouvoir aller au week-end quand certains doivent travailler le week-end, tous ces décalages permanents qui créent un certain malaise finalement.
La langue, c'est quelque chose d'assez visible, ouais, je pense, la connaissance des langues. Très vite, on est amené, quand on fait des études, à devoir parler anglais, alors que ce soit pour, je sais pas, quand on est en journalisme, par exemple, appeler quelqu'un qui parle anglais, ou que ce soit parce qu'un ami vous présente une amie anglaise, par exemple, et là, hop, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont presque bilingues, et que nous, on baragouine trois mots qu'on a appris au collège et au lycée. En France, parce qu'on n'a jamais eu l'idée d'aller faire un stage linguistique ou qu'on n'a jamais... Voilà. Par exemple, l'Erasmus, ce qui n'est pas forcément pour les bourgeois, attention, mais je veux dire, l'idée même de faire un Erasmus, moi, je ne l'ai pas eu parce que venir de la fac de Grenoble et d'aller à Paris, c'était déjà un voyage, je pense. Enfin, c'est comme ça que je me le raconte. Storytelling total, mais je me dis que si je n'ai pas eu l'idée d'aller à Rome, j'aurais adoré, franchement, développer la connaissance de l'italien alors que je ne l'ai appris qu'à l'école, donc je le parle très mal. Si j'étais allé passer ne serait-ce que 6 mois à Rome, par exemple, en Erasmus, ce qui est à mon avis faisable, j'aurais développé cette connaissance de la langue. Mais j'ai même pas eu l'idée de le faire parce que Paris, c'était déjà l'étranger, quoi.
Oui, et puis c'est un budget, c'est comment on va le financer, c'est
tout. L'Erasmus, pour le coup, j'imagine qu'il y a des aides et que c'est concret, enfin que ça peut se faire, mais d'autres, évidemment, bénéficient de voyages ou alors tout simplement de parents qui parlent anglais.
Comment vous expliquez que, alors, je ne sais pas si c'est défaut, en tout cas, qu'il y ait tant de gens qui essaient de faire croire qu'ils sont des transfuges de classe? Alors, on peut citer, dans le monde politique, vous citez, pas Dominique de Villepin, parce qu'il n'y arriverait pas.
Non,
vous
alors lui, ce n'est pas possible.
Édouard Philippe, pardon. Ou vous citez la chanteuse Chris, qui se raconte, on peut même citer Léa Seydoux, tous ces gens qui se racontent, qui se sont faits eux-mêmes.
En fait, ça va très loin. C'est-à-dire que moi, depuis que je travaille sur ce livre, dès que je vois un article sur quelqu'un, alors ça peut être Vincent Lacoste, cet acteur qu'on adore, ça peut être Myriam Haddad, une peintre géniale. En fait, dès que je vois un article sur quelqu'un, je vais systématiquement essayer de trouver l'info des parents. Et une fois sur deux, l'info n'y est pas, parce que bon, bah, c'est le début d'une carrière, donc c'est compliqué. Récemment, Vincent Lacoste, je lisais Riyad Satouf qui a fait une BD sur Vincent Lacoste, et il disait « Vincent vient de nulle part, il a débarqué comme ça dans le monde du cinéma ». Bon, il vient de nulle part, quoi.
Et c'est vrai. Sa famille travaille dans le cinéma, non ?
Non, alors pour le coup, c'est pas autant criant, mais par contre, ses parents, son père est juriste, si je me souviens bien, et sa mère bossait au conseil de l'ordre des médecins. Donc on peut pas dire qu'ils viennent de nulle part et d'une classe particulièrement populaire, juriste, ordre des médecins. Et dire dans la presse, il vient de nulle part, moi, ça m'ennuie, en fait. Je trouve que c'est presque une forme de désinformation, même si c'est Riyad Satouf qui l'a dit. Je pense que le journaliste, dans ce moment-là, devrait lui dire. Ah, mais du coup, il ne vient pas non plus nulle part, il vient d'une forme de petite bourgeoisie parisienne, parce qu'en plus, il était parisien. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de malhonnêteté dans la manière dont on parle de nos invités. En fait, on n'arrête pas d'inviter des gens qui font l'actualité, des écrivains, des gens qui font de l'associatif. Et en fait, il faudrait à chaque fois les resituer.
On écoute un peu de musique. C'est exprès pour vous, ce morceau-là. On est toujours avec Adrien Nazelli, auteur de « Et tes parents, ils font quoi ?» chez Jean-Claude Attès. Un livre, Lattès, mais j'arriverai jamais à le dire une fois convenablement, un livre sur les transfuges de classe. On écoutait Mylène Farmer, Alan, et ce n'était pas un hasard, puisque vous avez compris l'allusion évidemment, à votre mémoire de maîtrise qui portait sur les citations littéraires dans l'œuvre chantée de Mylène Farmer. Bah, alors, oui. Je ne sais pas si vous aviez une époque particulière.
Ah non, c'était tout Mylène, là pour le coup je ne pouvais pas être encore plus précis. Et là c'est Edgar Allan Poe, et donc évidemment, oui, vous êtes un connaisseur.
C'est une chanson que vous avez étudié en détail, les différentes références à l'univers.
Voilà, et comme je vous disais, travailler sur des sujets pop comme ça dans un monde très élitiste, c'était une manière, je pense, de ne pas me confronter à mes propres insuffisances et à mes propres ignorances. Parce que travailler sur des sujets que personne ne connaît à part moi, c'était pratique, ouais. Personne ne pouvait me juger.
Dans votre livre et dans votre discours depuis que vous êtes là, enfin en tout cas dans vos réponses, puisque dans votre discours, moi je trouve qu'il y a un paradoxe, parce que d'une certaine façon vous avez l'air d'être très à l'aise et ça n'a pas l'air du tout de vous poser un problème, l'identité, l'origine de vos parents, et en même temps vous dites que vous faites des listes de noms de transfuges de classe, vous demandez systématiquement aux gens ce que font leurs parents. C'est bizarre pour quelqu'un pour qui c'est pas un problème, qui a l'air d'être très à l'aise avec ça, en même temps ça vous obsède.
Bah, c'est déjà, je pense, le fait d'être à l'aise, c'est aussi un truc de caméléon, comme je le dis, c'est une métaphore que j'aime bien. C'est je pense que quand on est amené à fréquenter plusieurs milieux, on les imite, enfin on imite les gens, et du coup c'est temporaire, quoi. C'est peut-être pas ma personnalité d'être enfin en tout cas j'ai pas toujours été comme ça. Je pense que j'ai été plutôt un adolescent assez timide. J'ai pu quand même faire un peu de théâtre avec la MJC de mon village, mais c'est de l'imitation. Et oui, ce sujet me fascine parce qu'il est collé à moi et qu'il est quand même lié à une forme de colère pour les hypocrisies du monde social tel que je le vois autour de moi.
Mais vous êtes dans un monde social très particulier qui est celui de la culture du journalisme. Vous êtes assez peu allé dans d'autres univers. C'était un choix ?
Dans le livre ?
Oui, dans le livre, bien sûr.
En fait, bien sûr, là, j'assume que pour ce livre, j'ai dû faire un peu un tri. Et donc, j'ai pris des gens qui étaient soit des amis, comme Pascaline, qui travaille à France Culture avec moi, ou des personnalités que j'aimais bien, ou qui m'intéressaient. Vous avez parlé d'Aurélie Filippetti, il y a Rokhaya Diallo, il y a David Béliard, l'adjoint à la mairie de Paris. Enfin, des gens qui m'intéressaient, quoi. Et du coup, évidemment, ça invisibilisait les transfuges de classe qu'on pourrait qualifier de économique, c'est-à-dire des gens qui en fait voilà, font une licence, un master et qui ensuite travaillent par exemple dans une banque. Parce qu'en fait le récit peut-être quand on travaille dans une banque est moins romantique parce qu'il n'y a pas toute la pression culturelle.
Mais du coup on se retrouve aussi dans des environnements où peut-être la culture de départ est plus importante encore.
Oui, effectivement.
Qu'est-ce que ce livre vous a appris sur vous ? Parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était aussi d'abord une enquête sur vous que vous avez faite.
Eh bien, j'ai, à la base, en journaliste, comme on nous l'apprend, j'ai pas voulu trop parler de moi. Je voulais complètement dire que ça partait de mes questionnements. Mais c'est vrai que ma maison d'édition m'a poussé à rester un fil rouge dans le livre. Ça m'a donné envie d'aller interviewer plus de gens chez eux, de donner la parole à des gens qui...
Oui, parce que vous avez dû faire le livre pendant le confinement en plus.
Oui.
Donc vous avez vu beaucoup de gens par Zoom.
Pas mal. Mais après, en fait, c'est vrai que voilà, donner la parole à des gens qui ne sont pas attendus là où ils sont, ça m'a plu. Par exemple, aller interviewer des aides-soignantes, comme il y a dans mon livre, sur l'école, plutôt que d'aller les interviewer uniquement quand il y a des manifestations d'aides-soignantes, je trouvais ça intéressant, ce décalage.
Est-ce que vous aimeriez faire maintenant un livre sur les enfants des transfuges de classe ? Moi, je trouverais ça passionnant.
Eh bien, oui, je pose cette question à la fin, parce que du coup...
Posez la question de vous quand vous aurez des enfants.
Mais en fait, les enfants de transfuges, du coup, sont des enfants d'héritiers. Moi, si j'ai des enfants, ils auront un père diplômé. Selon ma définition, ce seront des héritiers. Ah, même si ce ne sera pas des héritiers, pour l'instant...
Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir combien de temps là, il reste ce petit quelque chose d'origine différente. Ça vous intéresse pas, non, ils ont le droit.
Non, si, ça m'intéresse beaucoup. C'est moi qui s'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, les grands-parents, de toute façon, les gens font toujours référence à leurs grands-parents. Donc, ça, c'est un vrai truc dans la presse. C'est pour ça que vous avez parlé d'Edouard Philippe, l'ancien
premier ministre. Qui sort le coup de son grand-père Docker.
Tout le temps, on sort le coup des grands-parents.
Docker, si, c'est ça. Ouais.
Donc, on sort le coup des grands-parents. Et du coup, ça masque le fait que le père, lui, dirige un lycée. Et c'est pour ça que moi, j'ai volontairement coupé cette généalogie-là pour m'intéresser qu'aux parents. Mais de fait, il doit rester sans doute quelque chose qui est transmis des grands-parents. C'est pas pareil que de venir d'une dynastie qui remonte à Marie-Antoinette, comme c'est le cas dans certaines familles.
Vous avez trouvé une réponse à la question de votre cousin Michael, que j'aime beaucoup, pas votre cousin, la question. Pourquoi faudrait-il toujours monter ?
Une réponse. Bah, en fait.
Non, mais c'est pas grave, vous n'avez pas le droit de prendre la main. Mais j'aime beaucoup cette question.
Moi aussi, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je l'ai mise en valeur au début. Michael, déjà, c'est un peu mon meilleur ami, c'est mon cousin, j'ai grandi avec lui. Et quand je lui ai expliqué le livre, il m'a juste dit pourquoi il faudrait monter dans la société. Enfin, il a repris les présupposés de tout mon travail, qui était de dire tu te fais un peu chier pour rien quand même. Et c'est quelque chose que j'aime bien, cette manière de parler, quand je parle à ma famille ou les parents des gens que j'interviewe, c'est de dire vous vous prenez quand même beaucoup la tête. Je pense à une copine en fait, que j'interviewe dans le livre, qui est l'assistante de Laure Adler à France Inter. Et son père, Hervé, me dit « c'est quand même beaucoup de boulot pour pas grand-chose », en parlant de l'émission. Et c'est drôle quand on compare l'importance que ça a dans le milieu journalistique et littéraire et même politique, on va dire, cette émission, avec le regard d'un père qui était ouvrier et qui, lui, trouve que franchement, on se prend beaucoup la tête pour une heure avec un intello.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Adrien Nazelli d'être venu. J'espère qu'on n'a pas passé une demi-heure ennuyeuse avec un intello. Et tes parents, ils font quoi ? Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents. C'est édité par Jean-Claude Lattès. C'était La Relève, présentée par Christophe, réalisée aujourd'hui par Margot. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes ou presque sur le web de Radio Campus Paris. Vous retrouvez là le programme musical de Radio Campus Paris à 19h. C'est la matinale. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle relève. Bonne soirée.